9h-10h, à votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et pour démarrer la semaine, c'est à votre santé, le docteur Delabo. Comment ça va, docteur Delabo?
Oh, dis donc, je dormais bien. Hein.
Ouais, là, des dents. On a tiré Pépé de son lit, encore en robe de chambre et en chaussons.
Je suis encore en train de frotter mes petits yeux. Le marchand de sable est passé.
Non, mais attendez. 9h, je vais avoir un appel de la protection des petits yeux.
Bon, c'est l'heure à laquelle je commence mon boulot à Rouen. Hein.
Bon, ça, donc vous êtes fatigué, docteur Delabo.
Ah ben, là, j'ai une crève épouvantable. Ne vous reconnaissez peut-être pas très bien ma voix, mais ne vous affolez pas. J'ai une superbe rhinopharyngite avec tout. Éternuement, mouchage, etc. Bon, pour l'instant, j'ai pas de diarrhée, mais.
Non, mais écoutez,
ça va pas venir.
À 9h01, c'est gentil de partager ça avec nous, le docteur Delabo qui sera donc désormais.
Je ne dirai pas la couleur de mes crachats.
Oh non.
Il vaut mieux pas.
Non, mais pas le matin, docteur Delabo. Non. Moi, je comprends pas d'ailleurs. Les docteurs, ça devrait pas être malade.
Ah, ça, c'est une connerie, mais alors.
Ah non, mais c'est vrai.
Il n'y a pas pire qu'un médecin.
Les
médecins ne savent pas soigner. Ouais. Ça peut pas leur arriver et ils meurent tous 5 ans après la retraite.
Ouais. C'est comme le chef, voilà, qui lui donne toujours des trucs pour soi-disant jamais être malade et il est toujours malade. Donc finalement, vous êtes.
Oui, mais tu crois pas que Jamel, il est un peu.
Hypochondriaque.
C'est
peut-être ça. Mais les
chefs, ils sont très tourmentés, les chefs cuisiniers.
Exactement. Alors, docteur Delabo, nouveau rendez-vous. Vous êtes là tous les lundis, 9h-10h. Vous connaissez le principe, hein. Vous pourrez poser toutes vos questions au docteur Alain Delabo entre deux quintes de tout au 01 53 48 3000. Et puis, pour tous ceux qui ne connaissent pas encore le docteur Delabo, eh bien, le docteur Alain Delabo a inventé une méthode qui s'appelle la chrononutrition. Alors, qu'est-ce que c'est que la chrononutrition, docteur Delabo?
Tu crois qu'il y a encore des gens qui ne savent pas?
À 9h du matin, il y a plein de gens qui vous découvrent. Dites, qu'est-ce que
c'est vrai? Découvrez-moi. Découvrez pas trop parce que j'ai la crème.
Non, c'est pas le moment. C'est qui ce vieux machin avec une voix bizarre qui parle?
Tu sais ce qu'il te dit, le vieux machin? Tu sais que là, je lui fais un doigt d'honneur, hein, au cas où vous me verriez pas. Bon, ceux qui sont pas habitués, ça va vous faire drôle.
Ouais, c'est vrai. Il y a un temps d'incubation
au doc, parce que le doc est un peu spécial. Mais rassurez-vous.
Mais la chrononutrition, on explique, je pense que c'est.
Eh bien, c'est tout simplement l'application au quotidien de la chronobiologie humaine. Je n'ai pas inventé un truc pour maigrir. J'ai essayé de comprendre et j'ai appliqué les règles de la chronobiologie moderne qui sont formidables, qui sont sensationnelles. Je n'ai aucun mérite de l'avoir trouvé. En fait, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir l'œil aguerri et puis de me dire, il y a quelque chose qui colle pas. Tout ce qui est diététique, ça marche pas. Donc, l'erreur, et c'est ma femme qui a touché du doigt le sujet, le fond du sujet, c'est ne cherche pas à maigrir, ça te met de mauvaise humeur, parce que j'essayais, j'ai pris 40 kilos, j'étais une humeur de cochon, et elle me dit, ne cherche pas à maigrir, fais comme tu fais pour tes petits vieux, puisque je suis gériatre de profession, apprends à manger, tu manges complètement de travers. J'ai dit non d'un chien, c'est ça.
C'est-à-dire qu'un jour, vous avez décidé d'arrêter de fumer, vous avez pris énormément de poids, et donc
40 kilos.
Voilà, 40 kilos, et vous avez décidé d'appliquer la méthode que vous appliquiez aux personnes âgées que vous nourrissiez à l'époque.
Exactement.
Sur vous. C'est comme ça qu'est née la chrononutrition. Le principe, c'est finalement, tout aliment est bon à partir du moment où on le mange au bon moment de la journée.
Sauf quelques exceptions. Les exceptions étant les aliments du premier âge, c'est-à-dire tous les laitages contenant du lactose, qu'on ne doit surtout pas prendre après 24 mois. Il y avait une émission à la télé extrêmement intéressante ces jours-ci, qui parlait d'un problème vétérinaire pour les chiens, les chiots, les chats, etc. Et qui disait surtout, leur donnez pas de lait à partir de l'âge de 6 mois, puisque c'est beaucoup plus jeune, parce que c'est très mauvais, ça les empêche de grandir normalement, etc., etc. J'étais heureux comme un roi, j'ai dit.
Mais maintenant, beaucoup de médecins vous rejoignent. Hein. C'est vrai que longtemps, on a dit qu'il fallait boire du lait parce que c'était bon pour la santé, mais ça, c'était après la guerre, finalement, après la Deuxième Guerre mondiale, où les industriels du lait ont commencé à faire des campagnes de publicité.
Oui, buvez du lait.
C'était ça. Hein. Donc, et on disait aux gens, buvez du lait, c'est bon pour la santé. On distribuait d'ailleurs aux élèves à l'école des berlingots de lait.
Oui, j'en ai bu, mais ça partait d'un bon sentiment, l'enfer en est pavé d'ailleurs, paraît-il, mais ça partait d'un bon sentiment et ça n'était pas dramatique dans la mesure où on avait besoin de refaire une santé où les gens étaient maigres, où il y avait... Moi, je suis un enfant de la guerre, pendant 4 ans, j'ai pas su ce que c'était que du lait. Hein. Voilà. Je l'ai su à la fin de la guerre, puisque je suis né en 42.
Alors, les interdits de la chrononutrition sont donc le lait après 24 mois.
Les laitages contenant du lactose, c'est-à-dire le lait, le yaourt, ah oui, j'en vois qui tremble là, les petits suisses, l'Activia, l'Actimel, les fromages blancs, les fromages frais, et puis tous les laits végétaux. Les laits végétaux ne sont pas du lait, mais c'est bardé de sucre.
C'est des jus.
Vous êtes pris. Ce sont des jus de végétaux.
C'est ce qu'on appelle le lait de soja.
Le lait de soja, le lait d'amande, le lait de coco. Il y a même du lait de blé. Il y a du lait de tout. On peut faire du lait avec n'importe quelle plante. Donc le mot lait est dévoyé de sa dénomination normale, qui est c'est un produit animal qui vient des animaux mammifères. Toute autre substance appelée du lait n'est pas vraiment du lait.
C'est du jus.
On peut parler de lait de tigre, si on veut. Enfin, c'est pas facile d'aller traîner une
tigresse. En ce moment, c'est pas donné, hein, Protéger maintenant les tigres. Ouais. Chaque semaine, la semaine du doc, sauf que comme vous n'avez pas travaillé cette semaine, docteur, il n'y a pas de semaine santé.
Si. Il y a mieux que ça, il y a un quiz que je te destine, notre série d'émissions, j'ai pensé te faire une petite blagounette. J'aurais très bien pu te faire une semaine santé, mais j'ai préféré te mettre un quiz, mon cher Philippe, pour voir si depuis tant d'années que tu travailles avec moi, tu as retenu tout ce que j'essaie de t'apprendre.
Alors, sur la chrono, oui.
Alors, qu'est-ce que le scorbut, mon petit Philippe?
Scorbut, c'était une maladie que les marins contractaient quand ils partaient trop longtemps en voyage.
Et pourquoi?
À cause du manque de la vitamine C.
D'accord, bien. Bravo, tu as le droit de continuer. Est-ce qu'il y a encore du scorbut dans le monde? C'est ça, surtout.
Ça revient.
Oui.
Paradoxalement, ça revient.
Dans quel pays ça revient?
Dans les pays où il n'y a pas suffisamment de vitamines, mais dans les pays riches notamment.
Ça revient en France.
Ouais, dans les pays riches. Ouais.
Mon fils a fait sa thèse sur le scorbut, sur un cas de scorbut en France.
Bah alors, c'est quoi les symptômes du scorbut pour expliquer à tout le monde?
On a d'abord les gencives. Alors, c'est très intéressant à savoir parce que si vous avez les gencives qui se mettent à saigner pour un nom, ça veut dire que vous manquez de vitamine C. Ça ne veut pas dire que vous avez le scorbut, vos dents ne vont pas dégringoler parce que le drame du scorbut, c'est que les dents tombent. Il n'y a plus rien.
C'est le symptôme.
Les marins édentés, c'était à cause de ça. Ils avaient un ou deux chicots qui se trimbalaient, mais leurs dents étaient toutes tombées par manque de vitamine C. Les premiers, Christophe Colomb a emporté des pommes de terre pour donner de la vitamine C. Et il avait raison. C'était pour le meilleur produit. Mais elles se conservaient très longtemps.
D'accord.
Donc, on pouvait donner des pommes de terre et ça protégeait de la vitamine C. Donc, si vos gencives saignent très facilement, au moindre brossage, ou si elle saigne spontanément, prenez immédiatement de la vitamine C, c'est très simple, vous en prenez 500 mg le matin, 500 mg le midi, jusqu'à ce que vos dents jusqu'à ce que vos gencives ne saignent plus. Et faites attention ensuite à prendre un fruit au goûter, à prendre, attention c'est au goûter, Philippe on arrête de rigoler bêtement, c'est dommage qu'on n'ait pas l'image.
Non, je rigole parce que je m'habitue pas à votre voix là.
C'est bizarre.
Alors j'ai l'impression que c'est pas vous, docteur Delabo.
Bah c'est la voix que j'avais quand je fumais.
J'ai l'impression que c'est le grand-père du docteur Delabo qui était.
C'est comme ça. C'est comme ça qu'à 44 ans, je me suis rendu compte que j'allais crever si je continuais à fumer. Parce que là, le changement de ma voix était quand même pathologique.
Bon, deuxième question.
Pourquoi la rougeole, pratiquement disparue, réapparaît-elle dans les pays riches? Il y a deux réponses.
Alors, ce qu'on dit, c'est qu'il y a un déficit de vaccination.
C'est pas ce qu'on dit. Il y a un déficit de vaccination. Enlève le ce qu'on dit, n'importe quel médecin.
Je réponds ce que je veux.
Non. Moi, je veux que tu répondes la vérité vraie. C'est-à-dire que malheureusement,
En Allemagne,
il faut bien parler du cas allemand qui est très intéressant. On a rendu la rougeole, le vaccin contre la rougeole, non pas obligatoire mais facultatif. Au bout de quelques années, il y a eu 45 morts en Allemagne, parmi les bébés. Je veux dire que les Allemands ont tout de suite remis la vaccination obligatoire de la rougeole. Donc, c'est pas discutable ça. Il y a un effet. Bon, deuxième chose, c'est l'effet de l'émigration. On s'est cru à l'abri parce que c'est vrai que la rougeole sévit peu et on s'est dit bon ça va. Mais on a oublié un détail, c'est que la rougeole sévit de façon extrêmement importante dans les pays du reste du monde, dans des pays sous-alimentés, dans des pays avec des déficits sanitaires importants. Et les cas de rougeole sont apparus en France et se sont multipliés.
Bien.
Bilan des courses, vaccinez vos enfants s'il vous plaît. Parce que c'est mortel.
Autre question.
Alors,
est-ce que vous voulez mes lunettes, docteur Delabo?
Non, mais je vais prendre les miennes.
Parce que vous n'arrivez pas à vous relire, c'est pour ça. Vous écrivez comme un docteur, hein, c'est pour ça.
Ah oui.
On coupera au montage, hein, parce que si on était en direct, je pense qu'on s'entend. Mais passez à celle d'après, docteur Delabo, parce qu'il y en a plein.
La syphilis est-elle une maladie microbienne ou virale? On voit de plus en plus de cas de syphilis.
Alors, il y a des retours de la syphilis, j'entendais ça à la radio également.
Même chose.
Microbienne.
Bien. Et quel est le médicament?
C'est la pénicilline.
Bien, Philippe. Le premier médicament inventé. Par qui est-ce qui a inventé la pénicilline?
C'est... comment il s'appelle?
Elle a trouvé.
Hein?
Allez, vas-y, dis-le.
Pénicillin.
Ian Fleming.
Oui, voilà. C'est l'inventeur de James Bond.
Et comment a-t-il trouvé la pénicilline? Parce que ça, c'est...
Il doit y avoir une question de moisissure quelque part.
C'est très amusant. Il a trouvé la pénicilline parce qu'il s'est aperçu que je sais plus comment c'était. Les trailleurs de vaches étaient protégés.
Ah ouais.
Et la pénicilline, c'est du pénicillium qui est contenu sur les trayons des vaches, entre autres. C'est marrant, hein.
Alors, ça peut dégénérer en la syphilis, en maladie psychiatrique.
En combien de temps une syphilis peut-elle évoluer?
Je sais pas, 30 ans, 40 ans?
Oui, 50 ans.
Oui, 50 ans.
Et ça se termine par ce qu'on appelle le tabès, c'est-à-dire une destruction progressive des cellules du cerveau. Inutile de vous dire qu'il vaut mieux pas en arriver à ce stade-là.
Bien. Autre question, docteur Delabeau.
Alors, la peste, qui était une maladie du Moyen-Âge et qui a tué des millions de gens dans le monde à l'époque du Moyen-Âge, a disparu de la Terre. Est-ce que c'est vrai?
Non, je crois pas. Je crois qu'il y a des nouveaux cas de peste aujourd'hui.
Il y a encore des cas de peste. Ouais. Il y a des cas de peste qui apparaissent dans des pays très, 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 très déshérités. C'est une maladie virale ou microbienne?
Virale.
Non, raté. Le bacille de Hansen.
Bon.
C'est une maladie bacillaire.
Dépêchez-vous, docteur Delabo, je souffre.
Quelle est la différence entre un rhume et une rhinopharyngite?
C'est pas localisé au même endroit.
Sont-ils d'origine virale ou d'origine microbienne?
C'est un virus.
Ça peut être les deux.
Ah bon?
Ça peut être très bien. Tu peux très bien avoir une rhinopharyngite microbienne ou virale. Le rhume est à l'invasion du nez. La rhinopharyngite, bien sûr, l'invasion des voies respiratoires supérieures. Le rhume ne s'accompagne pas d'un syndrome inflammatoire, comme tu peux le constater en écoutant ma voix. C'est parce que j'ai un syndrome inflammatoire rhinopharyngé. Alors, le meilleur des médicaments pour un homme, attention mesdames, à ne pas le faire, c'est l'aspirine. Tu prends tout bêtement 1 gramme d'aspirine matin et soir. Si c'est viral, ça va disparaître. Si c'est microbien, ça va se surinfecter. Tu n'auras plus qu'à prendre des antibiotiques.
D'accord. comment on le sait si c'est viral ou microbien?
Si c'est microbien, si ça. Alors, en général, le danger, c'est pratiquement toujours d'origine virale. Mais ça se surinfecte. Il y a un microbe qui vient se coller dessus. Si la langue est bleu ardoisé, c'est une grippe. C'est grippal, c'est pas grave. C'est viral. Si la langue se charge et que la fièvre monte, là, il faut passer aux antibiotiques. Ça veut dire qu'un microbe est venu gentiment s'acoquiner avec le virus et que ça devient dangereux. Voilà. Petite question encore. Pour être en bonne santé.
Oui.
Pour être en bonne santé et vivre mieux, faut-il dormir peu ou beaucoup?
Ça dépend des gens, mais je crois qu'il faut vivre beaucoup, il faut dormir peu.
Ni l'un ni l'autre. Il faut dormir suffisamment.
Ça doit dépendre des gens.
Non, ça dépend pas des gens. La quantité de sommeil moyenne, idéale, c'est 8 heures. La quantité minimale, c'est 5 heures. La quantité maximale, c'est 9 heures. Si vous dormez plus de 9 heures, vous allez, et ça c'est étonnant, vous allez mourir plus jeune. Contrairement à ce que vous pourriez croire, le fait de dormir trop ne protège pas le corps humain et ne le fait pas vivre plus vieux, au contraire. Alors vous allez me dire, attendez, c'est pas possible, c'est paradoxal. Mais non, c'est pas paradoxal. Si vous dormez trop, vous n'avez plus le temps de gérer correctement votre métabolisme humain. Vous avez besoin de faire tourner la machine. Je vais vous donner une comparaison qui va vous plaire, c'est très simple. Si vous laissez votre bagnole dans un garage et que vous la faites pas tourner régulièrement, elle est fichue. Et quand vous essayez d'en un, tout est foutu, faut tout réparer. L'ennui, c'est que le corps humain, il se répare pas. Donc, si vous ne voulez pas vieillir trop vite, prenez soin de dormir suffisamment. C'est d'ailleurs exactement ce que je vous dis pendant le ramadan. Ne faites pas n'importe quoi. Je vous l'ai dit, je vous l'ai écrit, je vous l'ai dit l'année dernière, je vous le redirai l'année prochaine. Vous devez dormir 8 heures par 24 heures pendant le ramadan pour ne pas avoir d'ennui de santé.
Dans un instant, le docteur Delabo nous donnera vous nous donnerez, docteur Delabo, votre petit déjeuner idéal. Et vous allez le voir, il y a beaucoup d'idées reçues concernant le petit déjeuner. Si vous avez des questions à poser au docteur Delabo, c'est très simple. Vous composez le 01-53-48-3000, 01-53-48-3000.
À votre service, reviens dans un instant. 9h, 10h. À votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Petite... Et le lundi, c'est à votre santé avec le docteur Alain Delabo. Oui, docteur
Petite
Delabo.
Petite question, oui. Philippe. De quelle couleur sont les petits pois?
Bah, je sais pas, docteur Delabo, ça dépend si vous avez cuit ou pas.
Là, si tu mets les petits pois frais.
Oui.
Ils sont de quelle couleur?
Bah, vous voulez me faire dire une bêtise.
Mais
rouge,
non.
Rouge.
Oui, tu sais pourquoi?
Oui.
Pourquoi les petits... Pourquoi?
Parce que les petits pois sont rouges.
Ah, voilà.
Ah.
Ouais, t'as vraiment de la culture, hein. C'est bien.
Ça.
Tu sais tout.
De la beau. Tiens. Alors,
en fait, j'ai retenu toutes mes pires bêtises.
On va faire sauter une idée reçue ce matin, docteur Delabo. Vous savez que pendant des années, on nous a dit que la boisson idéale, rêvée, santé du petit déjeuner, c'était le jus d'orange.
Oui. Oui. Mais manque de peau, c'est faux.
Pourquoi?
Bah parce que c'est
pourquoi est-ce que c'est pas une bonne idée de boire du jus d'orange le matin?
Parce que c'est pas parce que c'est du jus d'orange, ça pourrait être n'importe quoi d'autre qui contienne des sucres rapides, il faudrait pas en manger plus. Il y a de la vitamine C dans le jus d'orange, c'est très bien, mais c'est pas le moment d'aller prendre du jus d'orange parce qu'on va prendre des fruits, c'est un jus de fruits sucré. Mmh. Le jus d'orange est d'ailleurs plus sucré que l'orange elle-même parce que c'est un assemblage de jus, donc il est beaucoup plus sucré. Ça n'est pas le moment de manger du sucre. D'accord, si vous voulez prendre des viennoiseries avec du jus d'orange, vous allez avoir un petit déjeuner qui va pas provoquer de catastrophe. Mais vous allez forcément grossir et prendre du ventre, c'est obligé. Si vous voulez avoir une silhouette impeccable, il faut mettre les aliments dans l'ordre. Et le bon ordre, c'est le matin, du gras.
Alors, on va parler, il y a deux choses. D'un point de vue santé, est-ce que c'est... Parce que là, vous parlez de poids.
Oui.
Vous dites que si on prend du jus d'orange le matin, on va grossir.
Oui.
Mais est-ce que d'un point de vue santé, c'est une mauvaise idée de boire du jus d'orange?
C'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée parce que d'un point de vue santé, on ne peut pas métaboliser correctement les graisses saturées qu'on doit manger le matin. L'essentiel des graisses saturées étant contenu dans le fromage.
D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe quand on boit du jus d'orange au niveau du métabolisme?
On empêche l'organisme de fabriquer. L'organisme, il va au plus pressé. On lui file du sucre rapide, il va commencer par prendre du sucre rapide. Il va laisser sur le côté les gras saturés qui sont très longs à digérer, non pas à digérer, mais à métaboliser. Et il va donc s'occuper de prendre du sucre et il va stocker gentiment tout le reste, ce qui est une très mauvaise chose parce que, un, on va manquer de provisions dont on aura besoin le soir pour fabriquer ses cellules. Je vous expliquerai ça après, c'est un petit peu plus long. Et deux, il va malheureusement stocker ça dans le gras et il va donc grossir.
Pourtant, le sucre des jus d'orange frais, hein, pressé, c'est du bon sucre.
Oui, mais il empêche la métabolisation d'un aliment qui est très long à métaboliser, c'est-à-dire le fromage ou autre gras saturé dont on a absolument besoin le matin.
Mais qu'est-ce qui se passe quand on prend un jus d'orange? C'est-à-dire, qu'est-ce que techniquement dans le corps, qu'est-ce qui se passe?
C'est exactement comme quand vous avez le pied sur l'accélérateur pour démarrer votre digestion et tout, et vous collez un pied sur le frein en rajoutant des sucres. C'est exactement la même chose, si vous voulez. C'est ce qu'il faut surtout éviter de faire, c'est mettre un aliment qui va empêcher l'assimilation d'un autre. C'est long à assimiler le fromage, il faut du temps, il faut surtout pas. Le seul sucre qu'on peut mettre en même temps, c'est des sucres lents, qui vont être libérés lentement, qui vont quand même être libérés plus vite que les sucres rapides, plus vite que les gras saturés. Mais qui vont permettre à l'organisme de faire son boulot tranquillement.
C'est-à-dire que la bonne association, ça serait donc, si on prend pain, beurre, confiture et jus d'orange, ça...
C'est pas une bonne idée.
Mais est-ce que c'est une bonne association?
C'est pain, beurre. C'est surtout fromage, pain et beurre, ou fromage, pain et huile d'olive, mais on ne rajoute aucun sucre rapide, que ce soit des confitures, que ce soit des jus d'orange ou des jus de fruits, quelques jus de fruits que ce soit des fruits, la grappe de raisin du matin, c'est pas une bonne idée, etc., etc. Le matin, c'est le moment du gras. Tu m'as vu finir mon déjeuner tout à l'heure parce que j'avais pas eu le temps. C'est un sandwich de fromage avec de l'huile d'olive sur le pain.
Mais expliquez aux gens pourquoi c'est pas une bonne idée.
Parce qu'on ne va pas pouvoir assimiler correctement son déjeuner et parce que si on n'a pas pris suffisamment de gras saturé le matin, on va avoir forcément faim le soir, on va trop manger le soir et on va grossir énormément.
Mais si on prend pas de gras, par exemple, le matin, si on prend un petit déjeuner sans gras, ce qui n'est pas une bonne idée, j'ai bien compris, docteur Delabo.
Pourquoi c'est pas une bonne idée?
Parce que c'est vous qui le dites, et que je veux pas vous contrarier. Mais admettons que quelqu'un ne prendrait pas de fromage et qui mangerait pas de gras le matin. Est-ce que ça serait une mauvaise idée de prendre un jus d'orange?
C'est forcément une mauvaise idée. Parce que la mauvaise idée, c'est d'abord de ne pas prendre de gras le matin. Le gras le matin est obligatoire. Et le gras le matin ne peut pas... il faut que tu comprennes, parce que tu vas dans l'autre sens. Tu raisonnes à l'envers. Le raisonnement, si tu veux, le raisonnement logique, c'est je dois manger des gras saturés le matin. Si j'ajoute à mes gras saturés un jus de fruits, je casse tout, je flanque par terre tout le système nutritionnel qui me permet d'avoir un corps en parfait état. Si vous prenez des jus de fruits le matin ou des sucres ou de la confiture ou autre, et que vous ne prenez pas, que vous preniez du gras ou pas, de toute façon, le soir, votre corps n'aura pas à sa disposition suffisamment de gras saturé, de gras polyinsaturé, puisqu'il se transforme en 12 heures en gras polyinsaturé, et ce gras polyinsaturé sert à fabriquer les parois cellulaires. D'autre part, comme vous n'en avez pas assez, le corps va réclamer, vous allez énormément manger le soir, et les gens qui ne mangent que le soir avant d'aller se coucher, parce qu'il est évident que si vous mangez beaucoup le soir et que vous allez bosser après, ça c'est très bien. Mais c'est une question de timing, c'est ça qu'il faut respecter, si vous voulez, il n'y a pas 40 façons. Vous pouvez vivre de 40 manières différentes, je vous fais manger tous très différemment pendant le ramadan pour des raisons précises de médecine.
Alors, en France, le petit déjeuner est traditionnellement sucré depuis quelques années. Beaucoup de céréales ont été... aujourd'hui, on remplaçait le pain et le beurre chez les enfants, donc on a toutes les céréales, les chocopop, les miel pop et beaucoup de céréales. Souvent, le matin, on rajoute, les personnes rajoutent un yaourt et prennent un jus d'orange. Qu'est-ce qui serait, selon vous, parce qu'on a beaucoup de mères de famille qui nous écoutent, ou beaucoup de personnes qui sont en train de prendre un petit déjeuner, quel serait, selon vous, le petit déjeuner idéal pour avoir et vivre sa journée et sa matinée sans coup de pompe et rester mince?
Du fromage et du pain sur lequel on mettra soit de l'huile d'olive, soit du beurre. Et les enfants adorent le fromage, avec la différence que les enfants, comme ils se construisent, ils ne se contentent pas de se reconstruire la nuit, ils se construisent dans la journée. Il faut donc leur redonner du fromage le midi. Exactement comme on fait pour les femmes enceintes, pour les femmes allaitantes, les enfants en croissance doivent manger du fromage matin et midi. Je vous signale que les enfants adorent le fromage. Et la plupart des mamans reportent le fait qu'elles n'ont jamais mangé de fromage ou qu'elles n'aiment pas ça. Elles n'aiment pas ça, en fait, c'est entre guillemets. Elles n'en ont jamais mangé. Ou elles considèrent que le fromage, ça se prend quand on a un repas de fête. On va prendre du fromage à un aïe.
Ou en fin de repas, parce que en France, le fromage, c'est ce qui vient de terminer le repas.
Qui est franchement pas le bon moment pour manger du fromage, d'ailleurs. Il faudrait mieux le manger en premier. Mais ceci est une autre histoire. Mais les mamans retranscrivent. Ah, mais docteur, il pourra pas. Le nombre de fois où je vois des mères de famille qui m'amènent leur enfant qui est obèse, parce qu'il y a énormément d'enfants obèses maintenant, il faut bien se dire que quand j'étais à l'école primaire, dans ma banlieue de Rouen, il y avait 700 élèves, il y avait un gros, un seul, que d'ailleurs tout le monde appelait Bouboule, bien entendu. Maintenant, il y en a 40, ou 50, ou 60, enfin il y en a 30 ou 40%. Et c'est lié exactement à la façon de manger, parce qu'on ne mangeait pas du tout à mon époque, étant enfant, comme on mange à l'époque actuelle. Et on voit de plus en plus d'enfants qui deviennent de plus en plus obèses. On m'amène des enfants, c'est épouvantable, les pauvres gamins, ils sont... Et alors, curieusement, je peux vous rassurer, si vous m'écoutez, si vous laissez votre enfant, c'est très simple. Vous ne lui donnez pas tel ou tel fromage parce que vous l'aimez, vous l'emmenez. Non, mais c'est important ça, parce que c'est le comportement des enfants est très spécial. Et une consultation avec un enfant, ça prend deux fois plus de temps. Non pas parce qu'ils comprennent pas, mais parce qu'il faut tout leur expliquer. Et un enfant, il faut qu'il comprenne. Il est à l'âge où on a besoin de comprendre, où on a besoin d'apprendre.
Bah, c'est-à-dire que si du jour au lendemain, l'enfant, vous lui supprimez ses chocapic ou ses chocopoc et que vous le remplacez par du fromage, il va dire pourquoi.
Eh ben, je lui explique pourquoi. Et tiens-toi bien, je n'ai jamais d'échec. Je prends le temps d'expliquer, je prends le temps et je dis à la maman, vous l'emmenez dans le rayon fromage de n'importe quelle grande surface, ça peut être du fromage pasteurisé si vous voulez, on s'en fout, vous le laissez choisir le fromage qu'il veut à condition que ce ne soit pas du fromage blanc ni du fromage frais. Donc le chavroux, le petit Billy, les machins, ces trucs-là, c'est non. Le carré frais Gervais, le boursin à l'ail au pois, bois, tout ce que vous voudrez, c'est non aussi. Parce que, bon, qu'on se fasse plaisir à un repas de fête, si vous voulez, vous tapez un boursin à un repas de fête, oui. Mais ça n'est vraiment pas le fromage qu'il faut manger le matin pour démarrer une journée. Et les enfants le savent. Mais les enfants adorent, curieusement, des fromages à goût très fort. J'ai une de mes petites filles, je l'ai déjà dit l'autre jour, qui adore le roquefort et qui mange du roquefort à tous les petits déjeuners. Elle est mince comme tout. Bon, mon fils est nutritionniste aussi, il est chrononutritionniste, et ma belle-fille est infirmière urgentiste, donc il m'écoute, et puis Sébastien a appris à faire la même chose que moi.
Donc, si on vous écoute bien, alors le matin pour le petit déjeuner, pas de chocolat au lait.
Bah non. Mais on peut mettre de la crème si on veut, mais pas du chocolat. Alors, curieusement, on pourrait à la limite prendre du chocolat du Van Houten. C'est le seul chocolat, c'est pour ça que je cite le nom. Il y a peut-être du poulain aussi. Mais enfin, disons que c'est un chocolat sans sucre, totalement sans sucre, de la poudre de cacao. Donc, peut-être...
Que vous diluez avec quoi, alors?
Que vous diluez dans de la flotte, tout simplement. Ah ben, je sais. Ou alors dans laquelle on met de la crème.
D'accord.
Ou alors on fait un peu de crème.
Voilà, c'est comme ça que vous faites remplacer le chocolat. Par quoi est-ce qu'on remplace le jus d'orange? Parce que il y a quand même cette idée que les matins, pour bien démarrer la journée, il faut démarrer avec des vitamines.
La meilleure façon de démarrer la journée de travers, c'est de prendre un sucre rapide qui va vous coller une hypoglycémie, c'est-à-dire une dégringolade du taux de sucre, dans les heures qui suivent. Donc, ne pas prendre des jus de fruits ou des fruits ou des sucres rapides pour démarrer une journée, parce que, alors là, vous qui m'écoutez, je pense que vous allez avoir des prises de conscience. Vous avez, si vous faites ça, vous avez toutes et tous obligatoirement faim en milieu de matinée. C'est obligé. Vous pouvez pas faire autrement. Donc, vous allez reprendre un petit quelque chose en milieu de matinée. En général, c'est d'ailleurs une viennoiserie. Et vous aggravez encore le problème. C'est-à-dire que vous ne mangez pas suffisamment. Alors, mais docteur, je suis mince quand même. D'accord, vous êtes mince, mais vous n'êtes pas en forme à ce moment-là. Parce que si on mange et qu'on est maigre et qu'on ne mange pas suffisamment de fromage pour préparer sa journée, si on ne mange pas de la même manière suffisamment de viande le midi, ou on mange beaucoup et on peut être végétarien que gros, ou on mange beaucoup et on est gros, ça c'est pas agréable, et puis surtout on n'a pas la résistance physique de quelqu'un qui mange de façon précise.
Donc le petit déjeuner idéal, c'est du pain,
du beurre, ou de l'huile d'olive, et le fromage.
Et comment est-ce qu'on calcule la quantité de fromage qu'il faut manger pour bien passer sa matinée?
1,70 m, 100 grammes de fromage. Et on augmente de 10 en 10 ou on diminue de 10 en 10. On peut pas faire plus simple. Sachant qu'on peut l'augmenter, mais pas le diminuer. Si vous faites 1,60 m, c'est 90 grammes de fromage. Vous pouvez augmenter la quantité, il faut pas la diminuer. Si vous faites 1,50 m, c'est 80 grammes. Si vous faites 1,90 m, c'est 90 grammes. Au moins, c'est beaucoup plus que ça, puisque c'est 100 grammes, 110, 120, 140. Bon, ceci posé, je fais 1,72 m et je mange le matin 150 grammes de fromage. Il n'y a pas de limite supérieure pour le fromage du matin.
D'accord. Donc ça, c'est la base. Qu'est-ce qu'on boit?
De l'eau.
De l'eau.
Moi, je bois du café.
Et pour ceux qui boivent du café, alors...
Du café, je bois du café.
Mais, alors, il ne faut pas mettre de sucre dedans, c'est ça ?
On peut mettre un peu de crème si on veut, mais pas. Bah, on met une crème épaisse, alors pas de la crème fleurette, c'est-à-dire la crème qui contient encore du lait, pas de crème liquide, parce que ce sont des crèmes qui ne sont pas vraiment des crèmes, il y a du lait encore dedans. Une crème épaisse. Alors, faites attention, si vous faites ça, à ne pas me mettre ça dans un café à plus de 57 degrés, parce que ça va cailler, ça va faire drôle dans votre, ça va pas être très très esthétique, et ça surtout, ça sera pas aussi bon. Donc, laissez refroidir votre café pour qu'il soit à 45-50 degrés. Et là, vous pouvez mettre de la crème, et ça sera très bon. Excusez-moi, je vais douter.
Donc, pas de brioche, pas de pain industriel.
Je suis désolé, mais non.
Non.
Je suis l'ennemi farouche de tous les produits industriels, de toute façon. Autre que des produits industrialisés, intelligents. Le fromage est une découverte intelligente. Je ne dis pas ne prenez plus de produits lactés des industriels, mais demandez aux industriels, je vous demande, messieurs les industriels, de fabriquer des fromages au lieu de fabriquer des saletés qui sont extrêmement mauvais et dangereux pour la santé.
Bien. Pour ceux qui n'ont pas faim le matin, c'est quelque chose qu'on entend, les gens qui disent, de toute façon, il est bien gentil, le docteur Delabo, mais moi, quand je me lève le matin, j'ai pas faim.
C'est normal.
Est-ce qu'on peut différer son petit déjeuner?
Non.
D'une heure ou deux?
Non. Il faut apprendre à savoir manger le matin.
Mais est-ce que le fait de déjeuner une heure ou deux, c'est grave? Dire, voilà, ben moi l'appétit arrive.
N'importe qui peut déjeuner au bout d'une heure. Deux heures, c'est le grand maximum. Je dis d'ailleurs, déjeuner dans l'heure du lever.
Le petit déjeuner,
c'est-à-dire
quand
ça
je parle
peut être au bout d'une heure. Le petit déjeuner dans l'heure du lever. Peut-être une heure. Ça peut être exceptionnellement une heure et demie. Non, la question que tu viens de poser est très intéressante parce que elle appelle une explication, si tu veux. On ne doit pas ne pas avoir faim le matin. Bon. Si on a fait un AI de la veille et que, évidemment, on a passé une nuit un peu dure et qu'on n'a pas encore digéré tout ce qu'on a avalé dans la nuit, et j'ai quelques copains musulmans qui sont des grands spécialistes du lendemain difficile après l'AID, je ne citerai pas de mots, mais à Beurre FM, quelquefois, je m'amuse énormément, je me dis demain, ils vont pas être frais les uns les autres. Je ne trahirai personne. Mais il n'empêche que c'est à cause de ça qu'on n'a pas faim le matin. Les gens qui n'ont pas faim le matin sont des gens dont le métabolisme a été inversé. Et ça, c'est très mauvais parce qu'ils vont toute la journée être fatigués. Ça va être difficile pour eux de gérer.
Mais est-ce qu'on peut sauter le petit déjeuner? Parce qu'il y en a qui sautent le petit déjeuner.
Il ne faut jamais sauter le petit déjeuner. Jamais. Vous pouvez sauter le dîner tant que vous voulez, je m'en fiche, mais pas le petit déjeuner. C'est l'inverse. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est que vous avez, les uns et les autres, appris à manger à l'envers. Vous vous êtes imaginé que vous pouviez manger à l'envers. Mais non, c'est exactement, si vous voulez, les règles de la chrononutrition et de la chronobiologie humaine sont exactement les mêmes que les règles de la conduite en ville. Le conduire une voiture, ça nécessite des règles précises et on ne peut pas déroger sous peine d'avoir des problèmes.
Bien, le docteur Delabo, si vous avez des questions à poser au doc, sur les petits déjeuners d'ailleurs, vous pourrez le faire dans un instant. Et le docteur Delabo répond à vos questions. Toutes vos questions, notez le numéro de téléphone 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
À votre service, reviens dans un instant. 9h, 10h, à votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Il va falloir vous y faire tous les lundis, le docteur Delabo est là avec vous, il répond à vos questions dans un instant. Une question SMS, docteur Delabo, qu'est-ce que vous pensez du marronnier d'Inde contre les hémorroïdes?
C'est un vieux médicament qui a été utilisé longtemps, on utilise d'autres médicaments maintenant. On utilise notamment des médicaments comme le gingkor, l'esbériven ou d'autres produits. Mais l'intrait de marron d'Inde, c'est très connu. Bon, le problème de l'intrait de marron d'Inde, c'est que il faut faire attention. Le marron d'Inde a des effets secondaires. Il y a eu des cas de mort chez les enfants pour avoir mangé des marrons d'Inde.
Mais c'est quoi la différence entre le marron d'Inde et le marron qu'on trouve
La châtaigne.
Oui, chez nous.
La châtaigne n'a rien à voir avec le marron d'Inde. Le marron d'Inde, c'est tout à fait différent sur le plan de la composition.
Incroyable.
Et il y a dans le marron d'Inde un produit extrêmement dangereux. Il ne faut jamais manger de marron d'Inde.
Comme quoi, vous me faites dire des bêtises, des fois, et vous êtes très sérieux, docteur Delabo. C'est ça qui me rassure. Nordine est à Marseille, et il vous appelle au 01 53 48 3000. Finalement, sans les écorces. Hein.
Il a le fouet. Hein.
Il était
en train de me dire pouvait être difficile à s'introduire à cause des écorces. Et je lui ai dit, mais non, Andouille, ça se boit, ça se met pas dans le trou de balle. Ah, je t'ai eu.
Nordine est avec nous, docteur.
Il a le fouet. Hein.
Nordine.
Bonjour
Nordine.
Oui, bonjour Philippe, bonjour docteur.
Bonjour Nordine.
Docteur, hein.
Ça va bien?
Très bonne forme. Ça va?
Bon. Ouais, okay. Pépé, il a la forme, hein, je peux vous dire. Il a pris son marron d'Inde, il est au taquet.
Il est infernal. C'est lui qui est infernal aujourd'hui, c'est pas moi. Hein.
C'est sûr.
Il profite, je ne sais pas si vous avez entendu ma voix, Nordine, mais aujourd'hui, ça fait un peu revenant d'entre les morts.
Un mandalire. Allez, Nordine, votre question au doc.
Alors, moi, j'ai deux questions pour le petit déjeuner parce que
je suis
chamboulé.
Oui.
Donc, le matin, moi, j'ai une ancienne recette de grand-mère.
Oui.
On a un bocal de l'huile d'olive. À l'intérieur, on met des figues sèches, des dattes et des amandes. Et tous les matins, on prend une. Bon,
ouais.
Je ne prends pas tous les jours, c'est par hasard. Et le petit déjeuner, je prends des olives avec de l'huile d'olive qui sont déjà dans l'huile d'olive. Je prends une petite assiette, une sous-tasse avec de l'huile d'olive, une dizaine, l'huile d'olive, du fromage blanc et du café.
Alors, oui pour l'huile d'olive, oui pour les olives, mais non pour le fromage blanc, il faut prendre du vrai fromage. Et il faut rajouter... du rouille, du maroilles, du coulommiers, du brie, du caprice des dieux, ça marche très bien, c'est très gras.
Expliquez à Nordine pourquoi.
C'est pas la peine.
Le gruyère?
Ah si, le gruyère, vous pouvez, tous les fromages. Il faut pas des fromages frais, il faut pas des fromages blancs. Donc, il faut pas du boursin, il faut pas du carré frais, il faut pas des trucs comme ça, si vous voulez. Mais à partir du moment où le fromage a été soit cuit, soit pressé, soit fermenté, il a plus de lactose dedans, donc vous pouvez en consommer sans problème.
D'accord. Et pour les figues sèches trempées dans le
Alors ça, c'est bocal, au goûter. Au goûter, c'est excellent.
C'est-à-dire vers 4 heures.
D'accord. Oui, aux 4 heures. En fin de journée, c'est excellent. C'est un tonique. En plus, vous avez l'huile d'olive. Bien. L'huile d'olive, c'est la meilleure huile du monde.
Ouais, parce que c'est une recette de grand-mère. Donc
mais cette recette-là, parce que c'est magnifique. Moi, je sais qu'on m'en rapporte souvent d'Algérie, de Kabylie.
Au goûter, c'est génial. Magnifique. Au goûter, c'est génial.
On peut l'après-midi.
Pourquoi pas? En fin de journée, quand on a un petit retour d'appétit, c'est très bien de prendre ça. Ça va vous redonner un petit coup de fouet. Ça va vous apporter des vitamines. Ça va vous apporter plein de trucs intéressants. C'est très, très bien, au contraire.
D'accord. Juste une dernière question.
Oui.
Parce que j'arrive pas à trouver la crème de lait, c'est-à-dire une crème entière épaisse qu'on cuisine avec ou.
Oui.
Parce que moi à la maison, c'est ma femme qui. Là, je l'ai appelée, je dis, docteur Delabo, elle dit, c'est interdit les laits de soja.
Ah oui, surtout pas.
Ah non. Il dit pas que c'est interdit, il dit que.
Je dis que c'est dangereux pour la santé. Attention.
Parce qu'elle le prend tous les matins. Elle a arrêté le lait, mais elle a pris le
lait de soja. Non, c'est pas mieux. On ne remplace pas. Alors ça, c'est pour ça que je l'écris maintenant dans les programmes des débutants. On ne remplace pas du lait par du lait végétal. Faut pas faire ça, c'est encore pire.
D'accord. Et quand vous dites crème épaisse, c'est-à-dire la crème normale
La vraie crème, si vous voulez, la crème que vous achetez chez le crémier qui met dans un pot et vous pouvez planter la cuillère dedans, elle tient debout.
D'accord. Voilà. Donc,
la cuillère tombe, c'est pas de la bonne crème.
Ouais.
Mais c'est meilleur, hein. Si vous faites un café à la crème, vous allez voir.
C'est le café des Italiens,
Mais faut pas exagérer non plus sur la quantité de crème, quoi.
Ah bah non, faut pas en mettre trop. Puis, de toute façon, ça serait écœurant.
Mais ça fait le même goût que le café au lait, au fait, hein.
C'est très bon.
Ouais, très bon.
C'est le cappuccino, c'est du vrai cappuccino.
Mais sans sucre.
Ah bah non, faut pas.
Nordine, sans sucre, hein.
Non, sans sucre. Moi, déjà, j'alterne le matin.
Voilà.
Une fois, c'est le café, une fois, c'est le thé.
Mais pas de sucre, c'est ça. C'est ça que le docteur de la Beauve veut.
Ah non, pas de sucre.
Et vous savez que le thé à la crème, c'est bon aussi. Hein.
Gros bisous, Norbin, parce qu'il y a beaucoup de monde.
Oui, bonne journée.
Et là, Larbi est avec nous. Larbi, bonjour et bienvenue.
Allô
Oui, Larbi, on vous écoute.
Oui, bonjour.
Bonjour, Larbi.
J'espère que vous allez bien.
Super, Larbi.
Pas trop bien, mais ça va, j'assure.
Ouais, j'ai remarqué ça. Ouais,
c'est une drôle de voix, hein.
La voix, elle est un petit peu différente.
Ah oui, mais.
Bon, docteur, j'ai une question à vous poser. Il y a un moment, j'ai regardé un documentaire sur YouTube qui parle des gens qui vivaient dans l'Amazonie. Et c'est des gens qui sont en bonne santé, en très bonne santé, mais quand ils se lèvent le matin, c'est pour chasser. C'est-à-dire qu'ils ne mangent pas directement le matin tôt comme on fait nous, mais ils sont en très bonne santé. Alors j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'on est obligé de manger vraiment dès qu'on se réveille? Ou bien on peut, par exemple, moi je me réveille à 5h, 6h du matin, et des fois je mange à 11h, je fais une pause à 11h et je mange.
Ça c'est trop tard.
Oui.
Là c'est vraiment trop tard. Mais ça peut être une ou deux heures après.
D'accord.
Ça peut être une ou deux heures après. Ce que vous racontez sur les Indiens d'Amazonie, c'est comme ça que nous vivions tous il y a des milliers d'années, hein. Chasseurs.
Bah, vous étiez déjà là, tout à
l'heure. J'étais là.
Vous en souvenez de
là, j'aurais pas dû, là. Là, j'aurais pas dû, c'était trop facile.
Vous qui avez connu ça.
Oui, c'est ça. Comme disait un de mes fils à ma femme, maman, toi qui as connu Jeanne d'Arc.
Donc, avant, on vivait comme ça, il n'y avait pas
de on vivait comme ça. Ouais. Les chasseurs allaient chasser leur viande, puis se nourrissaient avec. Alors, il faut savoir un truc important. Quel que soit l'être mammifère ou autre, le prédateur qui va chasser le matin, que ce soit un être humain ou n'importe quel animal, comme un guépard, une panthère ou n'importe quoi, quand ils ont, ou même des oiseaux, des corbeaux, ils commencent toujours par manger le gras dans leur victime. Eh oui, c'est pas un hasard. Je n'ai rien inventé, figurez-vous. Je n'ai fait que comprendre comment fonctionnait la nature et comment ce qu'on appelle l'instinct, qui est un apprentissage en fait, permettait de comprendre comment tout fonctionne. C'est l'observation qui m'a permis de mettre au point la chrononutrition. Ça n'est pas une invention, c'est le résultat d'observation. Et c'est pour ça que c'est efficace.
Bon, Larbi, 11h, c'est trop tard.
Oui.
Sauf si vous levez à 10.
Oui, sinon je commence par le gras.
Voilà, toujours par le gras.
Ouais. Bah écoutez, je vous remercie sincèrement.
Mais je vous en prie, bonne journée, Larbi.
C'est votre réponse, merci, bonne journée, au revoir.
Merci, Larbi. Alors vous avez compris, hein, c'est la première aujourd'hui, mais le docteur Delabo sera avec nous toute l'année. Du coup, je me trouche le nez en même temps que j'ai dit année, c'est pour ça que j'ai ce bruit, cette voix qui vous ressemble, docteur Delabo. Et vous pourrez donc lui poser vos questions. Ce soir, vous avez votre chaîne YouTube
Oui, à partir de 18h, je serai sur la Web TV. En principe, normalement, là c'est la dernière fois qu'on l'a fait le soir à 18h, parce que à cause de Philippe, j'ai tout changé, et elle sera à midi à partir de lundi prochain. Je rentre à Rouen et j'enchaîne sur ma Web TV, je fais à 12-13.
Quel homme de médias vous êtes. Je vous rappelle, si vous aimez...
C'est grâce à toi, je te signale. Je c'est toi qui m'as formé, mon ami. Vrai, je suis ton élève.
Non, ben non, dans ces cas-là, je vous revendique pas, je vous ai déformé. Bien, vous pouvez retrouver toutes les vidéos du Docteur Delabo sur la chaîne YouTube de Beurre FM également sur le site de Beurre FM à lundi prochain, Docteur Delabo. Et demain, c'est Nadia Elbouga qui sera là avec nous et nous parlerons du dépistage du cancer du sein puisque nous sommes rentrés dans le mois octobre rose, le mois qui est consacré au cancer du sein. À demain.
Retrouvez à votre service tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.